France Inter.
Bonjour à toutes et tous. Voilà l'été. Officiellement, c'est dans 6 jours. Le 21 juin marquera le solstice d'été et le début de cette belle saison où s'invite sur nos tables, dans nos cuisines, la tomate, l'aubergine, la sardine, l'abricot, la pêche. On va faire le plein de recettes estivales en prévision des grandes vacances avec des produits de saison, évidemment, ça va de soi. Grâce à nos deux invités, deux cuisinières qu'on a régulièrement invitées à notre micro, André Zana Murat, bonjour. Zana, pour les intimes, vous avez publié en 2023 « L'été passe, les recettes restent », un livre de référence qui a trouvé sa place dans de nombreux foyers, dont le mien, hein, c'est un secret pour personne. Et vous revenez cette année avec « L'été passe, les recettes restent toujours » aux éditions Hachette, avec une nouvelle fournée de recettes comme on les aime, colorées, généreuses, partageuses. Un deuxième volume s'impose à un Zana.
Bah, c'est ce qu'on m'a dit.
Vos amis, votre entourage vous en réclamez encore et donc on a du rab et on en est ravis. On va goûter un bel échantillon de vos nouvelles recettes. Les photos sont signées Emanuela Sina.
Sino,
excusez-moi.
Et elles sont superbes.
Emanuela Sino. Vous avez également publié à l'automne dernier Couscous, Boulette et Fantaisie, toujours chez Hachette, mais ça on va attendre un peu parce que vous allez revenir pour une émission Couscous. Kedah Black, bonjour.
Bonjour.
Ça fait des années qu'on vous suit, qu'on apprécie votre travail d'autrice culinaire. Vous avez publié à l'automne dernier Le Goût du Jour, un carnet de recettes personnelles et inspirées au fil des semaines et des lieux où vous vivez. Donc on est entre le 18e arrondissement de Paris et
le Cotentin.
Et le Cotentin où vous faites escale régulièrement, plus qu'escale, hein, c'est un de vos points d'ancrage.
Oui, c'est un point d'ancrage, effectivement.
Photographie et stylisme assurés par un duo.
Les Lucano, Sonia et Frédéric.
Sonia et Frédéric Lucano. Et il y a un chapitre dans votre livre intitulé « Les tubes de l'été en boucle ». Et bon, on va en déguster, en écouter quelques-uns avec vous. Zana et Kedah, vous l'aurez compris, votre mission, si vous l'acceptez, nous délivrer et nous faire goûter quelques-unes de vos recettes préférées de l'été. Pour partager cet alléchant menu estival, ils ont bien choisi leur émission, tiens. Le duo de choc, Elvire Ramasson et Jérôme Gagnès. Bonjour les copains.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Bienvenue à la table dont on va déguster.
Ben merci beaucoup, on est ravis d'être là.
Ah ouais.
Ça sent l'été à plein nez là.
Elvira.
Dans ma valise de l'été, je mets des épices venues du Liban. Vous allez pouvoir mettre à peu près partout dans toutes vos recettes. En été, mais à l'automne, en hiver, hein. Il n'y a pas de saison.
J'ai commencé à piocher dedans, c'est d'un très gros niveau.
Hein. Et moi aussi, oui.
Jérôme.
Je verse dans votre verre une gemme d'une pureté incroyable, un rubis magnifique.
Et oui, alors là, effectivement, couleur rubis, c'est un rosé précieux, peut-on dire ?
Oui, exactement.
Et vous, votre été, vous le cuisinez où et comment ? Donnez-nous vos idées de recettes simples et vos tours de main sur franceinter.fr ou sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Et pour retrouver tous les contenus de notre émission, adresse, recettes, bons plans, ainsi que tous les podcasts de nos chroniques, de nos émissions, rendez-vous sur franceinter.fr à la page on va déguster. Juste avant d'entamer notre menu estival, je vous sers une très chouette adresse de bistrot à découvrir si vous passez un week-end ou l'été en Touraine.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Bonjour, voici Mathieu, propriétaire du petit resto, on est à Loche, soyez le bienvenu, je vous emmène voir Marie, la chef de cuisine.
Le petit resto, c'est le nom du petit resto.
Exactement, c'est vraiment notre nom, c'est tout petit, c'est un resto, c'est le petit resto.
Bonjour.
Bonjour. Alors moi je m'appelle Marie, j'ai 38 ans, je suis la femme de Mathieu et on a ouvert le petit resto à Loche il y a 8 ans maintenant. C'est vraiment cuisine de marché, on a de la chance à Loche d'avoir un marché assez incroyable deux fois par semaine. Et donc l'idée c'est vraiment que les maraîchers avec qui je bosse, donc c'est des maraîchers qui sont bio et qui sont locaux évidemment, chaque début de semaine ils m'envoient ce qu'ils ont de dispo et en fonction de ça en fait je vais définir ma carte. La carte, elle change au maximum une fois par semaine, mais plus souvent deux ou trois. En ce moment, je bosse la poitrine de porc de Roi Rose de Touraine, typiquement de l'Indre-et-Loire, c'est-à-dire il est produit que en Indre-et-Loire. C'est d'ailleurs le porc qu'on utilise pour faire la rillette de Tours, la rillette IGP. Donc moi, je la confie, en fait, donc je la cuis 9 heures. Avec une petite marinade, des aromates qui vont bien. J'accompagne ça d'une purée de pommes de terre, évidemment, pommes de terre bio et locales. Et dessus, une petite salsa de micro-pousses, pareil, qui sont produites à 2 km d'ici, par Martin, à la grange de Chavigny. Je bosse aussi les champignons. Il faut savoir que Loche, c'est vraiment historiquement une ville de champignons, parce qu'il y a beaucoup de caves, en fait, donc il y avait beaucoup, beaucoup de champignonnières. Maintenant, il en reste qu'une seule, mais elle est incroyable. Donc, c'est des champignons bio, pleurotes, shiitake, champignons de Paris. L'idée, j'en fais une petite crème avec un petit peu des saveurs umami, un peu sauce soja. Voilà, je mixe ça bien fin. Là-dessus, je vais rajouter des pleurotes croustillants que je vais frire au four avec un petit peu d'ail. Et enfin, là-dessus, un œuf parfait pour ramener un petit peu de crémeux. Voilà, ça par exemple, c'était les plats de cette semaine.
Et là, vous allez préparer les desserts ?
Ouais. Donc là, on a les fraises, donc de chez Camille Marty, pareil, en bio, en local. Je fais ça avec un petit crémeux au chocolat blanc et au citron et un moelleux coco. Voilà. Du local, du gourmand, du bon, quoi.
Merci.
Avec plaisir.
Avez-vous déjà passé une tête à Loche ?
Oui. Mais pas dans ce restaurant, mais je suis déjà allé à Loche, oui.
D'accord.
À deux, trois reprises. Il y a deux, trois adresses qui sont très intéressantes et il y a surtout pas très, très loin. Enfin, il y a une petite heure de route, peut-être trois quarts d'heure, un restaurant tout à fait extraordinaire qui s'appelle La Promenade de Jackie Dallet, qui est un resto totalement dingue.
Waouh. Bon,
incroyable.
Pas de blague sur Loche, hein, Jean Gagnès, on n'est pas sur RTL.
Madame Belpère.
Non, 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 s'il vous plaît. Non, j'aurais jamais dû. Je lui ai tendu la perche. C'était trop facile. Loche est une commune d'Indre-et-Loire située dans la Touraine du Sud, au sud-est de Tours, aux portes du Berry, pas très loin du château de Valençay d'ailleurs. Une cité royale qui vaut le détour pour son cœur historique du Moyen-Âge, mais aussi donc pour son petit resto qui a eu la très bonne idée de s'appeler Le Petit Resto. Marie et Mathieu, avec, vous l'aurez compris, un carnet de fournisseurs locaux tout à fait impressionnant, que de l'agriculture paysanne et locale, et un menu entrée plat dessert à 36 euros, même le soir, avec, vous l'aurez compris, un très très gros boulot au fourneau de Marie. C'est vraiment un petit restaurant très méritant. Voilà, pour mitonner en direct cette émission qui sent bon l'été derrière la console, Laurent Thomas, Jérôme Ragano, Fabrice Rivaud, nos recettes de l'été avec André Zanamura et Keda Black, juste après Hola, le nouveau titre de l'artiste guadeloupéenne Celia Wa. Bientôt l'été sur France Inter. Il est 11h15, l'heure de l'apéro a sonné avec la soul créole de Celia Wa en bande son parfaite de l'été. L'apéro est certainement l'un des sports les plus pratiqués de l'été. Ça se passe comment chez André Zanamura, l'apéro parfait ? Ça se passe où ? Avec
qui ? Il prend beaucoup de place. Mm-hmm. L'apéro, c'est presque un dîner, quoi.
Ah.
C'est-à-dire que d'abord, je fais pas d'entrée. Comme ça, on attend les retardataires, et puis l'été, c'est quand même l'apéro. On ne sait pas si on boit pour manger ou si on mange pour boire. Enfin, bon, il y a plein de préparations, et puis ensuite, il y a un plat comme une soupe ou une grosse salade ou un plat d'ailleurs que tout le monde. Mais c'est vrai que ça s'éternise pas mal.
Il est plutôt méditerranéen, votre été, Zala ?
Ah, il est méditerranéen. Sinon, ça ne va pas, quoi.
De quel côté de la Méditerranée, alors ? On sait que vous avez des origines tunisiennes.
Oui, enfin oui, je suis né par là, mais et puis on a planté nos racines vers Ramatuelle et puis on a vendu là. Alors donc c'est aussi un livre hommage à cet endroit où on a été très heureux, mais c'est la Méditerranée.
Vous avez aussi vos attaches à Sète.
Oui, ça commence un peu à Sète, voilà.
Bon, Sète, nouveau Marseille, paraît-il. Kéda Black, votre été, votre apéro d'été.
L'apéro, je dirais que c'est le domaine de l'improvisation, c'est ce qu'on invente, c'est l'apéro, ça peut être aussi le pique-nique sur la plage, c'est un peu ce qui peut aussi se créer au dernier moment avec ce qu'on a dans le placard, on peut faire un houmous avec des pois chiches ou des haricots et puis les herbes du jardin, enfin ça peut c'est ce qui se crée au fil de ce qui est disponible, de ce qu'on a et... De ce que chacun apporte aussi.
Vous avez aussi la chance, Kéda Black, de passer pas mal de temps, alors pas du côté de la Méditerranée, mais au bord de la Manche.
J'ai des attaches aussi en Méditerranée, d'accord. Mais j'ai toujours bien aimé les étés d'Europe un peu plus septentrionale. J'aime bien cette fraîcheur-là. Et donc en ce moment, ça se passe effectivement plutôt dans ce balancement qui est le balancement de toute l'année entre Paris et puis un petit coin paradisiaque du Cotentin.
Il y a aussi des produits de la mer dans le Cotentin ?
Il y a de très beaux produits de la mer.
Des coquillages, des poissons, des crustacés.
La moussette qui se termine.
Ah là là. Là, malheureusement, non, la moussette, c'est pas tellement. C'est plus le printemps, sa saison. On parle d'une araignée juvénile.
C'est ça.
Qui est en plus bon marché.
Qui est bon marché, qui a un goût délicieux à manger comme ça. On en fait aussi, on fait des bouillons avec les carapaces.
Et qui demande pas mal de boulot quand même à décortiquer.
Vous cassez, parce qu'en plus on peut y aller tranquille, parce que pour le coup les stocks ne sont pas du tout menacés. On peut même parler d'une espèce plutôt invasive. On lui casse les pattes, il y a toute la chair
qui sort.
Moi j'appelle ça le sucre d'orge de la mer, quoi. C'est un truc absolument incroyable. Simplement, sa saison est en train de se terminer.
Elle est courte. Elle est assez courte, elle se termine, mais elle laisse place à d'autres plaisirs. Ben, l'été, c'est aussi le moment du homard auquel on peut accéder pour un prix un peu plus raisonnable qu'à d'autres moments de l'année.
C'est vrai que du homard, on en veut souvent aux fêtes de fin d'année, là où il est le plus cher, évidemment, alors que l'été, ça redevient un crustacé raisonnable.
À peu près abordable. Oui.
À peu près abordable, et c'est là où, effectivement, il faut le consommer. Je vous ai demandé, mesdames, Kéda et Zana, deux préparations, voire trois, pour un apéro d'été. Ils ont un point commun, vos petits plats, c'est qu'ils se passent sur une tartine de pain grillé. On commence avec Zana.
Alors moi, je vous ai préparé un petit crostini à l'ail confit, avec un anchois dessus.
Waouh.
Et puis, j'ai préparé une sardinade. Oh. La toyonnade a laissé place à la sardinade.
Oui, voilà, la toyonnade, vous savez que je la pratique, la toyonnade. Voilà. Hein. Et effectivement, désormais, c'est la sardinade. Mais racontez-nous d'abord ce petit crostino qui est tartiné effectivement d'un ail bien crémeux. J'imagine que cet ail a subi une cuisson assez poussée.
Mais non, 20 minutes. C'est de l'ail frais.
Oui.
Alors, 20 minutes, tout doucement, au plus petit feu, couvert d'huile d'olive. J'ai mis 2-3 tranches de thym frais. 20 minutes, ça suffit, parce que c'est de l'eau.
Et quand l'ail n'est pas frais, est-ce qu'on prolonge un peu la...
Oui, 30 minutes. Mais du coup, il est très digeste. Moi, j'ai du mal avec l'ail cru, mais il est très digeste.
Et il est doux.
Il est doux.
Il est très doux.
Cette gousse d'ail, Zana, vous l'épluchez d'abord avant de la cuire dans l'huile d'olive.
Voilà, on l'épluche, on la cuit dans l'huile d'olive. Mm-hmm. On couvre, on prend une toute petite casserole, on la couvre d'huile d'olive, on met un tout petit feu et on attend que ce soit cuit. C'est rien du tout.
Merveilleux. Et ensuite, évidemment...
Et puis alors, j'ai arrosé la tartine de l'huile de cuisson de l'ail. Mm-hmm. Et puis, j'ai mis un anchois parce que c'est une passion. C'est une sorte de passion.
Et alors, résultat ?
Ah ben. Moi, c'est ma passion aussi. Anchois
et l'ail,
c'est comme le doux et le... Et
c'est un mariage de génie.
D'eau et feu.
Plus naturel comme mariage.
Mmh. C'est gentil, bon, ça. Mmh.
Voilà, c'est bon.
Ouais, c'est très bon. C'est, le mariage est merveilleux. Le poisson électrise.
Ça sera le juste qu'il faut.
Oui, c'est absolument parfait.
Et la gousse d'ail est mixée au mixeur ou écrasée à la
manchette ? Non, là, je l'ai fait tout à l'heure. Je les ai écrasées avec le dos d'une cuillère. Parce que bon, il faut un couteau rond, on écrase comme une crème.
En plus, c'est low-tech.
Ça devient une crème.
Et d'où vient l'anchois ? Parce que l'anchois est très très bon.
Ah oui.
C'est quand même pas facile de trouver des très bons anchois.
Écoutez, je l'ai acheté chez Rapp. sais pas on parle si vous connaissez.
On parle d'une épicerie italienne.
Qui est située
du 9e
arrondissement. Oui.
Donc j'imagine que ce sont des anchois de Campanie, de chez Tara. Ou...
Les bons anchois sont assez chers.
Très très bons.
En tout cas, c'est
Garancia.
Un...
Di Garancia.
C'est quoi, vraiment c'est... un régal. Crostino, ail anchois, bravo, c'est une sacrée réussite.
Merci.
Et on a juste à côté une autre tartine signée Keda Black. À vous la parole, Keda.
Alors là, l'idée, c'était d'utiliser la feta rôti, qui peut être préparée comme un plat, en fait, en tant que tel, mais ça marche aussi. Donc le principe est simple, on fait rôtir sur un lit de légumes. Alors là, j'ai choisi des fenouilles, mais ça pourrait être de la courgette, des oignons, de l'aubergine, des tomates, bien sûr. Un lit de fenouilles, la feta, et puis ça passe au four. La feta commence un petit peu à griller sur le dessus, à fondre. Et là, donc, servi sur des petites tartines de pain grillées avec une huile de figuier.
Et ça, c'est important.
Voilà. Donc c'est une façon d'amener la graisse dans un autre territoire, parce qu'il y a des figuiers en Normandie. Il y a aussi de la marjolaine qui rappelle l'origan, donc en plus doux. Donc il y a tout ça pour faire rôtir les légumes. Et puis l'huile de figuier qui est préparée en mixant dans un robot la feuille avec de l'huile, plutôt une huile neutre comme du pépin de raisin ou une huile d'olive un petit peu douce ou légèrement herbacée, en mixant bien jusqu'à presque chauffer, puisque le robot chauffe. Et puis ensuite, en fait là je ne l'ai même pas, on peut filtrer ou ne pas filtrer si on a un robot qui mixe vraiment très fin, ça fait une sorte de poudre avec une légère texture et puis on a ce parfum du figuier qui est encore assez discret, je pense, parce que c'est le début de la saison.
Oui.
Je pense que la feuille en plein été sera plus gorgée de saveur.
Alors évidemment, on choisit des feuilles de figuier non traitées, mais les figuiers sauvages, pour le coup, abondent partout et pas seulement en Méditerranée. Et il est vrai qu'on retrouve une aromatique qui est proche de celle de la coco.
Coco, ouais.
Et pour cause, on s'est renseigné, molécule aromatique en commun entre le fruit du cocotier, la noix de coco, et la feuille de figuier, terpène, phénone, phénol, aldéhyde, coumarine, et tout ça procure effectivement cette espèce de saveur gourmande de noix de coco, c'est tout à fait étonnant. Moi j'avais vu le truc aussi chez Armand Arnal à la Chassagnette, il prenait quelques feuilles de figuier de son jardin, il les mettait comme vous exactement dans une huile de pépins de raisin, on préfère plutôt une huile neutre parce que l'huile d'olive est assez aromatique, et ensuite on laisse tourner dans le blender pas mal de temps, et la chaleur du moteur du blender va gentiment infuser à 45-50 degrés, c'est ça qui est vraiment assez génial, et ça donne un goût tout à fait intéressant. Alors
Et ben du coup c'est très parfumé. Il y a trois étages dans la fusée. Il y a le toast, un légume qui est assez fondant, qui est à la fois le fenouil qui est fondant. Il y a quand même une tomate qui est assez jolie d'ailleurs pour la saison. Je sais pas où vous l'avez trouvée, mais elle est pas mal du tout, hein, parce que c'est pas facile de trouver des bonnes tomates en début de saison. Et puis enfin le fromage rôti. Donc voilà, c'est une fusée à trois étages avec beaucoup de parfums. J'ai beaucoup aimé.
Et moi j'aime beaucoup la feta qui a subi un petit choc sous le grill, qui est légèrement coloré, et ensuite lorsqu'elle refroidit, elle a une texture différente de cette. Elle est beaucoup plus moelleuse que la feta fraîche un peu granuleuse. C'est vraiment intéressant.
C'est vraiment délicieux et c'est délicat aussi. Est-ce que la feta est arrosée d'huile quand elle passe sous le grill ou c'est simplement l'huile de figuier à la fin en garniture?
Non, je l'arrose un petit peu d'huile. Il y a quand même plusieurs couches d'huile. L'huile pour les légumes, l'huile pour la feta, un peu de miel aussi. Et puis l'huile finale à froid de figuier.
Une des superbes recettes à retrouver dans Le goût du jour de Keda Black chez HN Cuisine. Un merveilleux bouquin, tout en poésie, avec des atmosphères qui font rêver.
Et des textes super bien écrits.
Oui, c'est vrai, il y a l'écriture de vos textes, Keda,
qui nous entraîne.
Presque qualifiée d'une écriture un peu à l'anglo-saxonne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous accompagnez le lecteur ou la lectrice, il y a beaucoup de conseils, vous le prenez ou vous l'apprenez par la main, il n'y a pas vraiment d'injonction. Et c'est ça qu'on aime, en fait. C'est de très jolies recettes très bien rédigées.
C'est tout à fait ce que j'ai voulu faire. Je crois que c'est beaucoup comme ça que j'ai appris à cuisiner, avec des livres de cuisine anglo-saxons, en fait, qui racontent, qui accompagnent. Et l'idée, c'est vraiment celle d'une promenade, avec d'amener les recettes, de dire comment elles arrivent, pourquoi, pour tenir la main du lecteur et lui permettre moins de faire en fonction des instructions, mais plutôt de créer son propre, sa propre recette, sa propre cuisine.
On s'approprie vos tours de main, vos inspirations, et c'est sacrément réussi. Allez, une petite troisième recette d'apéro pour la route. Il s'agit d'une sardinade, donc.
Ah bah oui.
Zana.
Alors écoutez, oui, je l'ai goûté chez un ami.
Oui. Quel ami, on peut savoir ?
Mathias, c'est un designer j'adore et qui fait, qui a une fondation, qui découvre des jeunes talents. C'est un garçon merveilleux. Et puis j'ai bien aimé et j'ai essayé de reconstituer en rentrant. Et puis voilà, j'ai à peu près reconstitué. Mais
vous ne demandez pas les recettes à vos amis, vous les reconstituez
je demande les recettes, si. J'adore, oui, tout le monde échange, c'est ça l'idée. Il faut faire attention, il faut peut-être parfois ébouillanter les olives parce qu'elles sont salées. Donc il peut y avoir une addition de produits salés, ça dépend de quelle sardine, de quelle olive, etc. Il y a de la capre.
Oui.
Beaucoup de capre, il y a des olives, il y a de la nette.
Et oui, on sent la nette.
Et sardines.
Ça apporte beaucoup de fraîcheur, la nette.
Et voilà. Alors,
le parfum.
Olives. Des olives et...
C'est délicieux.
Et du Saint-Morais.
Du Saint-Morais. Voilà.
Ça, alors, un fromage frais qui adoucit tout ça.
Qu'on pourrait remplacer par un cream cheese ou...
ce qu'on veut.
Étonnant, hein.
C'est très bon et la sardinade, parfois, ça peut être un peu costaud, un peu brutal, un peu poiscaille. Et là, au contraire, c'est très fin.
C'est doux, même.
C'est assez caressant, c'est doux, ouais. Ouais, c'est
et
très
là,
joli.
Encore une fois, c'est... on sent la paresseuse. C'est écrasé à la fourchette ou faut le mettre au mixeur? Si on peut éviter la
vaisselle. J'aime pas trop, moi, les mixeurs. Ouais. Alors, sauf exception pour des soupes déveloutées, moi, j'aime bien qu'on sente que de temps en temps, il y ait un petit bout de chair de sardine, un petit morceau d'olive. Alors, j'ai écrasé, je vous dis franchement, avec les mains, les sardines, déjà.
Oui.
Je les ai émiettées comme ça. Et puis, j'ai ajouté tout le reste. Alors, j'ai concassé les capres et les olives en morceaux, comme ça, au couteau. Mm-hmm. Et puis, j'ai tout mélangé. Mais... J'aime pas pour les pâtes ou pour tout. J'aime pas les sauces trop.
Même votre toyonade que je pratique, qui est un peu la version de cette tartinade au thon, avec un thon en boîte, attention, parce qu'en plus là on parle vraiment d'une
c'est
recette
placard,
très simple.
Hein, placard.
D'un très bon rapport qualité-prix. Là aussi il y a des morceaux, il faut pas trop mixer finement.
Voilà, c'est important.
Il y a quoi d'autre dans la toyonade à part le thon ?
Quand on rencontre un petit morceau de viande, on est content. Quoi.
Oui,
c'est vrai qu'on sait ce qu'on mange.
Dans la toyonade, il y a de l'olive. Des capres,
olive,
là encore.
Capre, jaune d'œuf, ail.
Absolument. Et ça donne un truc tout à fait réussi. On vous met la recette sur le site de l'émission.
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira Masson va nous emmener en voyage ?
Exactement. Il y a quelques semaines, j'ai reçu le SMS suivant de Julia Samut, notre amie fondatrice de l'épicerie L'Idéal à Marseille.
Évidemment, on la salue.
Deux points, ouvrez les guillemets. J'aimerais absolument que tu goûtes le zaatar et le sumac de mon amie Magali que je vends au magasin. Elle me met les larmes aux yeux. Ces produits sont exceptionnels. Tu vas pas croire ce que tu goûtes, je te jure. Vous imaginez bien que je ne me suis pas fait prier. J'ai goûté et je suis moi aussi tombée sous le charme. Elle s'appelle Magali Ghosne, elle est libanaise, elle a été journaliste éco, elle est en France depuis 12 ans, elle est revenue en France après y avoir fait ses études. Elle a repris des études de géographie alimentaire à la Sorbonne, elle a travaillé avec une vigneronne. Elle a fait 1000 choses, elle a participé à des événements autour de la cuisine libanaise. Puis elle a commencé à fournir des petits sachets de zaatar préparés par sa mère, avec les herbes récoltées par sa famille au Liban, à une vingtaine de personnes un peu du milieu de la restauration. Et puis, sans trop réfléchir, de façon assez spontanée, sans business plan, elle a décidé que ce serait ça son métier et sa nouvelle vie. Elle a ainsi créé Tanios, sa marque, depuis Marseille, où elle est désormais établie. Elle dit ceci: « Je viens d'un pays qui est dans une situation très difficile et où, contrairement à la France, les produits alimentaires ne sont pas protégés par un système de régulation de type AOP, IGP. Dans le zaatar, finalement, on peut mettre ce qu'on veut ou presque. » Or, il existe un origan sauvage, endémique, qui doit composer le vrai zaatar. C'est ce goût-là, cette manière-là de respecter notre patrimoine que j'ai à cœur de transmettre. C'est ma contribution. Alors moi, ma contribution, c'est que je distribue les lots. Il y a un petit sachet en craft pour vous, Anna, un autre pour Keda.
D'un design, d'un emballage très sobre, très joli.
Qui contient les produits de Magali, de Tanios. Il y a un zaatar que Jérôme a déjà goûté. Il est intense.
Ah, qui est incroyable. Qui est un parfum d'une intensité folle.
Très, très végétal, très origan.
Magnifique.
Parce qu'il est confectionné avec du vrai origan sauvage de Anket, la terre familiale, à 700 mètres d'altitude, à l'extrême nord du Liban, pratiquement à la frontière avec la Syrie. Dans ce zaatar, il y a du sumac, que vous avez également dans vos petites poches en craft. Il y a des vraies baies de sumac encore sur leurs tiges.
Avec leurs petites notes acidulées.
C'est ça, hein. Petites baies rouges acidulées.
Mais d'ailleurs, les Libanais appellent le sumac le citron des montagnes.
Ah, ouais. Et ça peut, effectivement, on pourrait dans votre sardinade mettre un peu de sumac si on n'avait pas d'acidité sous la main. Dans ce zaatar, il y avait évidemment du sel, du sésame bio torréfié, décortiqué. C'est très important, nous dit Magali, qu'elle torréfie elle-même l'ennemi du zaatar. C'est la contrefaçon, en quelque sorte, mais c'est aussi le rancissement. Il doit être assemblé, ce zaatar, quand le sésame est encore tiède, pour que l'ensemble s'homogénise, se fonde, en quelque sorte. Son sumac, en poudre ici, elle le met sous vide le plus vite possible, parce qu'en vrac, il ne vit pas bien, il s'oxyde. Elle me disait, proposer du sumac dans un flacon, c'est comme vendre une bouteille de vin déjà ouverte.
Ah, ça c'est ennuyeux ça, oui.
Troisième petite poche, c'est ça. C'est son mardouché. Alors ça, c'est en quelque sorte une création. Enfin, en tout cas, le nom est une création. C'est un hommage au village qui porte le même nom. On est cette fois au sud du Liban, où elle a goûté un jour ce mélange rare, car il contient ces pignons d'Alep si difficiles à cueillir. Là, elle met un petit peu moins d'origan sauvage, après bien des essais, pour arriver à l'harmonie qui lui convient, parce que c'est ça qu'elle cherche, la
et
recherche d'harmonie.
Et toujours sésame bio torréfié et sel.
Toujours. Vous connaissez sans doute le roman du grand écrivain libanais Amin Maalouf, Le Rocher de Tanios.
Et oui.
C'est le récit initiatique et la quête d'identité de Tanios, un jeune homme libanais au XIXe siècle. Eh bien, Magali Ghosn accomplit, elle aussi, une superbe quête initiatique, celle du goût de son Liban tant aimé, et un hommage à sa figure tutélaire à elle, Tanios, le prénom de son grand-père, qui aimait tant sa terre qu'il a quitté il y a peu, il y a 2 ans, à 101 ans, après avoir vu naître le projet de Magali Ghosn. Pas mal, non?
Mais oui. C'est très beau. Hein. Ouais.
C'est très très bon.
Et on trouve ces produits, alors évidemment, si vous êtes à Marseille,
chez Julia à l'Idéal.
Sinon sur Tanios, rue d'Aubagne,
dans le
quartier Noailles.
Quartier Noailles à Marseille.
Et sinon sur le site de Magali, tanios.co.
Très émouvant.
C'est vraiment très bon.
C'est pour vous le zaatar, parce que j'ai vu que.
C'est très gentil, merci.
Vous commencez à grignoter comme ça, du bout des doigts, Jérôme.
J'ai un immense coup de cœur pour ce zaatar qui est tout à fait intense. Camphré, avec les notes noisetées.
Il sera dans ma valise pour les vacances.
Ah oui, c'est tout à fait étonnant. Zana et Keda, quel est votre rapport à ces condiments dont on parle beaucoup depuis pas mal d'années? La mélasse de grenade, le sumac, qui est cette épice rouge, grenat, rouge, pourpre, qui apporte effectivement des notes acidulées. Ou encore le zaatar, ce mélange d'épices levantin.
Bah moi, je les utilise beaucoup.
Dans ma vinaigrette. Et vous n'avez pas attendu la grande mode, je crois.
Non. Et dans ma vinaigrette, maintenant, je mets de la mélasse de grenade.
Attendez, votre vinaigrette, oui. La fameuse vinaigrette magique.
La fameuse.
Non, là, vous êtes obligé de. Là, vous lancez votre vinaigrette, mais il va falloir rappeler la recette.
Un tiers. C'est-à-dire un tiers de soja, un tiers de vinaigre balsamique et un tiers de vinaigre de vin.
Oui.
Et le double ou le triple d'huile d'olive.
Absolument.
Et ça fait un mélange où le sel est à sa bonne place, etc.
Donc par exemple, ça donne une cuillère à soupe de vinaigre de xérès, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de balsamique. Non, il y a deux vinaigres.
Ah, il y a deux vinaigres.
Il y a deux vinaigres.
Je répète,
pardon.
Une cuillère à soupe de vinaigre de xérès ou de vin.
Voilà.
Une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique.
Et donc,
6 cuillères à soupe, le double, d'huile d'olive.
Ou 9. Entre 6 et 9, je dirais. Voilà.
Et sauf que maintenant, vous remplacez le vinaigre balsamique par
Je ne remplace rien du tout. Je rajoute une cuillère à soupe. Enfin, une demi-cuillère, si vous mettez une cuillère
d'accord,
de vinaigre, une demi-cuillère de mélasse de grenade. Ça apporte une sorte de rondeur à la chose.
La vinaigrette magique de Zana Murat.
Et ça, et le zaatar, quand il me reste de la pita, par exemple, ou du pain, je les arrose d'huile d'olive un petit peu, je mets le zaatar et je passe au four.
Merveilleux.
Et ça fait et dans les salades d'été, c'est merveilleux. Et pour la pita, ça peut accompagner aussi l'apéritif, on peut mettre la sardinade là-dessus. Enfin bon, voilà.
Keda, est-ce que ces condiments orientaux se sont fait une place dans votre cuisine?
Ils sont adoptés également. J'ai aussi une petite sauce, alors qui n'est pas une vinaigrette, mais qui est une sorte de sauce passe-partout, plutôt une sauce blanche avec du yaourt, de l'huile d'olive, un peu d'ail râpé, comme ça, un soupçon d'ail, du citron qu'on pourrait remplacer par du sumac, où on pourrait faire cette espèce de double acidité, de l'origan ou de la marjolaine, un peu d'huile d'olive, et puis le zaatar pour donner ses parfums.
Et pour accompagner des légumes grillés.
Et ça marche un peu
avec du pain grillé.
Tout ça marche dans des pitas, ça marche avec des grillades, ça marche avec des restes d'un peu tout ce qu'on veut. Et puis c'est adaptable selon ce dont on a envie, en fait.
Merveilleux. Nous allons prouver à Jérôme Gagnès que l'on peut pratiquer l'apéro estival sans alcool.
Mais oui, évidemment.
Ah, ouf. Avec deux boissons, mesdames, que vous nous avez apportées, on commence avec Zana.
Alors moi, c'est un thé glacé,
oui,
que j'ai piqué à une copine aussi, évidemment.
Alors elle s'appelle Agathe, on lui rend hommage.
Oui, oui, oui.
On a le droit de révéler son identité quand même.
Oui, elle est la veuve de Jean-Pierre Marielle.
Oui.
Et moi, j'étais leur témoin à leur mariage. Et c'est des gens que j'adore. Lui, je l'adorais. Et voilà. Donc, elle m'a invité
Agathe
une fois.
Agathe Natanson, hein.
Agathe Natanson.
Qui pratique donc ce thé glacé au pêche.
Voilà. Et qui est comédienne et qui est formidable. Et elle m'a invité un jour et elle m'a préparé ce thé glacé. Et je l'ai adopté aussi. Voilà. Ça se passe comme ça.
Mais comment on s'y prend ? Parce qu'alors, je crois qu'au départ.
Alors, thé Earl Grey.
On parle d'un thé Earl Grey. Donc, c'est donc ce fameux thé parfumé à la bergamote. Mais on peut aussi utiliser un thé noir.
Ce qu'on veut, ce qu'on aime. Mais ça se marie vraiment bien là.
Mm-hmm.
Du citron frais.
Oui.
Ou du sumac.
et une pêche ou une nectarine coupée en quartier aussi. Et puis, une branche de menthe.
Alors, en fait, on fait infuser un thé normal.
Un thé normal.
Il faut qu'il soit chaud pour faire infuser les autres ingrédients.
Oui, pas brûlant. On commence par faire infuser le thé. Et puis ensuite, on plonge les fruits, la branche de menthe. Moi, je l'enlève après, j'en remets une fraîche quand je sers le thé. Parce que,
le citron aussi, c'est quand le thé est un peu tiède, chaud.
On met les quartiers dedans.
D'accord.
Et puis ça parfume tout seul.
Merveilleux.
Moi, j'aime bien qu'il y ait l'écorce aussi, parce qu'il y a de l'amertume.
Exactement, parce que c'est ça qui est frappant dans ce thé. C'est la très fine amertume qui relève énormément la finale. Il y a à la fois de l'acidité, il n'y a quasiment pas de sucre. Ce que j'aime beaucoup, parce que moi j'aime bien l'amertume et l'acidité. Et donc c'est très rafraîchissant, une fois c'est très relevé en finale grâce à cette amertume.
C'est merveilleux.
C'est très
bon,
c'est
parfumé. On sent la pêche, preuve que la température du thé était suffisante pour faire infuser le fruit.
C'est quand même beaucoup plus intéressant quand on ne veut pas boire d'alcool, de boire ça, qui est très naturel, que de boire ces cochonneries de vins désalcoolisés, qui sont un non-sens en termes d'écologie, qui sont totalement stupides, dans lesquels on est obligé de rajouter des arômes parce qu'on a tellement foutu en l'air le vin en le désalcoolisant. Enfin, c'est de la connerie pure. C'est complètement stupide de faire la promotion de ce genre de vin et d'en parler. Donc, parlons plutôt de ce très bon thé, parce que c'est vraiment délicieux. Et voilà, une très jolie boisson sans alcool, qui est naturel, avec une belle amertume. C'est important, l'amertume, c'est salivant, c'est rafraîchissant, ça relève, c'est formidable.
Sans sucre ajouté ?
J'ai mis une giclée de sirop d'agave, parce que c'était très acide.
D'accord.
Alors, bon, voilà. Mais alors, ce qu'on peut faire, je ne sais pas si c'est recommandé, mais on peut le faire avec du thé déthéiné, parce que comme on l'en boit un peu toute la journée, il est bon aussi, il faut l'acheter de très bonne qualité, et on peut comme ça boire ça toute la journée.
Et c'est bien meilleur, il faut le préciser aussi, que ces thés industriels qu'on donne à
succès.
Nos enfants, dont on pense qu'ils sont beaucoup mieux que des sodas, mais qui sont en fait gorgés de sucre. Allez, Lipton et allons-y, quoi. Non, globalement, c'est...
Et le ice tea pêche est devenu un peu une engeance.
C'est pas du tout recommandable.
Les enfants adorent.
Ouais. Votre thé glacé, évidemment, il glace au frigo, ou avec des glaçons.
On le laisse au frigo, on met des glaçons.
Très bien. Allez, dans le verre de Keda Black, que se passe-t-il ?
Ça pourrait marcher avec du rooibos aussi, peut-être.
Ah bien, évidemment, le thé rouge d'Afrique du Sud. Rooibos, bonne idée.
De mon côté, j'ai profité d'une cueillette.
Cueillette normande ou pas ?
Une cueillette normande, oui, mais je pense qu'il y en a un peu partout. C'est le sureau qu'on voit fleurir en ce moment un peu partout. C'est quand même très facile à trouver, c'est pas une cueillette compliquée.
On parle de cette belle ombelle blanche.
Voilà, c'est ça, c'est des ombelles blanches dans des arbres pas très... Or, c'est parfois un peu en hauteur, faut quand même... faire un peu l'équilibriste. Et puis, pour préparer un sirop, c'est extrêmement simple. Il suffit de mélanger de l'eau, les ombelles, du sucre.
Dans quelle proportion, à peu près, Kéda ?
C'est difficile à dire parce qu'on a un petit sachet en plastique d'ombelles, à peu près 400 grammes de sucre. Mm-hmm. Moi, je fais un sirop plutôt léger avec le double d'eau, mais on pourrait faire la même proportion de sucre et d'eau pour avoir quelque chose de déjà plus concentré. On le laisse avec un citron coupé en tranches. Là aussi, la peau du citron bio va apporter l'équilibre d'amertume et d'acidité. Et puis, on laisse ça dans un récipient fermé pour à peu près 24 heures. Attention les fourmis qui adorent ça. Je parle d'expérience. Et puis, le lendemain, il suffit de filtrer, en fait. Et puis, voilà. On peut aussi laisser fermenter ça plusieurs jours et obtenir une boisson...
Un soda naturel.
Ou même légèrement pétillant, oui. Légèrement alcoolisé même, et qui est absolument délicieuse. Et là, j'ai essayé quelque chose, donc c'est le sirop assez léger, et j'ai voulu faire aussi un thé pour répondre à celui de Zana, en essayant d'infuser à froid du sobacha, donc du thé de sarrasin.
Oui.
Que
japonais.
J'ai marié avec le sureau et je trouve que ça apporte ça quelque chose
bien,
d'un
ouais.
peu
ça fonctionne rond, très bien.
C'est pas mal. Voilà.
Le goût du sureau, hein,
j'adore ça.
Elderflower en anglais, sambuco en italien.
Qu'on croise oui, aussi bien c'est en Italie délicieux. Qu'en Suède.
C'est ouais, très parfumé, jardins, hein, c'est ouais. très intense, c'est très parfumé.
Des parfums
vraiment,
fleurs blanches, ah ouais, tout ouais, à fait ouais. surprenant, mielé, c'est
et c'est très équilibré.
Moi
j'avais peint un peu du sucre, le sucre est très fondu, c'est très joli.
Dans un instant, attention à match. Très amical, évidemment, autour d'un légume emblématique de l'été de la Méditerranée, j'ai nommé l'aubergine, et Jérôme Gagnès verse un salivant rosé dans nos verres. Shell of a Man de l'artiste nippo-canadienne Saya Gray.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Les recettes estivales de nos deux cuisinières inspirées qui n'ont pas de restaurant, qui n'ont pas de commerce de bouche, mais qui font la cuisine au quotidien pour leurs proches, leurs amis et qui partagent leurs recettes dans deux très beaux bouquins, les bouquins de l'été. L'été passe, les recettes restent toujours de André Zanamura chez Hachette et toujours chez Hachette. Le goût du jour, Kéda Black, Hachette Cuisine, qui là aussi a trouvé sa place dans de nombreux foyers parce que
Ces recettes sont merveilleuses et particulièrement inspirées au fil des saisons et entre Paris et le Cotentin, va-t-on dire ?
Oui, mais on peut cuisiner
évidemment
partout, selon, en suivant cette promenade.
André Zanamura, dans votre introduction, vous écrivez la chose suivante. J'avais l'impression d'avoir livré tous mes plats fétiches de l'été. Vous faites allusion évidemment au recueil précédent, hein, l'été passe, les recettes restent, qui est toujours évidemment en vente. Cette saison que j'aime tant, les fruits et légumes gorgés de soleil à profusion, des recettes adaptables, même par mauvais temps pour que l'été dure plus longtemps. L'été, je tiens toujours un carnet comme un pense-bête, où je consigne les plats que j'ai préparés pour tel ou tel, afin de ne pas resservir les mêmes quand ils reviendront. Je l'ai donc feuilleté, ce carnet, j'ai remonté le temps, les étés passent si vite, et j'ai retrouvé quantité de recettes que je cuisinais il y a quelques années et que je ne fais plus. Allez savoir pourquoi. Voilà. Ça, c'est la raison de la nouvelle fournée de ces recettes.
Exactement.
Avec des recettes tout aussi inspirées que vous n'aviez quasiment jamais évoquées.
J'avais un peu laissé tomber. Enfin, oui, c'est ça. On a nos marottes. Il y a les vedettes du moment.
On a des cycles un peu aussi.
On a des tocs. Enfin, on refait les trucs. Et puis on oublie celles qu'on chérissait à un moment. Et puis, c'est bien dommage.
Mais en feuilletant votre livre où il y a de très belles recettes, on se dit, mais... Elles sont toutes, pourquoi elles n'ont pas été publiées plus tôt, tout aussi inspirées, parfois empruntées à des copains ou des copines qui cuisinent particulièrement bien.
Aux enfants.
Aux enfants aussi, votre fils, qui cuisine bien.
Mes fils.
Vos fils.
Il y a Ben aussi, oui. Et les petits-enfants aussi.
C'est quoi les recettes de vos fils que vous aimez particulièrement ?
Oh bah, moi j'en ai un qui fait que des pâtes pratiquement, mais c'est le sobuco là.
Oui.
Et puis Emmanuel il fait des trucs plus complexes. Mais il cuisine très très bien. Et puis les petits-enfants s'y mettent, alors c'est un régal quoi. Mais je voulais pas faire un trop gros livre parce qu'on voulait un petit livre qui se glisse facilement dans la valise, qui s'emporte, qui s'offre.
Format parfait.
Et c'était impensable de faire un gros livre, c'était pas l'objectif. Et puis voilà, l'exercice, je l'ai renouvelé, puis on va s'arrêter là. Mais c'est vrai que par exemple, comme je ferai. Enfin. Là, pour l'été prochain, par exemple, j'ai déjà un dossier dans mon ordinateur avec des recettes que je vais tester. Et ce ne sera pas un troisième livre.
Si, on attend le troisième volume avec impatience.
Mais voilà, j'aime bien livrer les choses et puis en faire d'autres après.
Zana et Keda, au moment de vous demander un plat d'été, facile à préparer, facile à déguster, vous avez toutes les deux spontanément, sans vous coordonner, pensé à l'aubergine. Et l'aubergine dans une préparation... végétal. Qui commence ? Zana. Allez, Keda.
C'est peut-être parce que l'aubergine, c'est le légume qui est le plus... qui on en discutait hier soir en goûtant ça, qui peut-être fait le plus penser à la viande, qui a le plus de texture,
c'est
qui
vrai.
A le plus de mâche, qui a le goût le plus rond, qui se prête le plus à des assaisonnements variés, etc. Donc je pense que c'est ce qui fait le plus... plat et qui donc n'a pas forcément besoin de viande, même si une aubergine, enfin si y a la viande c'est délicieux, mais c'est pas nécessaire, on a déjà tout ce qu'il faut.
Et là quand on déguste cette demi-aubergine rôtie au four, on
délicieux.
Oublie totalement la viande, racontez-nous, parce qu'en plus on se demandait si ça allait fonctionner froid, c'est merveilleux.
Ça marche très bien froid, ce sont des demi-aubergines qui sont d'abord rôties au four toutes seules, on fait des croisillons, on les arrose d'huile, on insère des petites tranches d'ail dans les croisillons pour avoir le goût de l'ail un petit peu grillé.
Et vous couvrez, vous couvrez ?
Je couvre pas, comme ça le dessus.
Et c'est à quelle température ?
C'est à 190 pendant bien 40 minutes. Donc le dessus grille, la chair devient tendre, et puis pendant ce temps-là, alors là ça prend un petit peu de temps, on pourrait faire des versions plus rapides, mais il s'agit d'hacher en tout petits morceaux d'autres légumes, de la courgette, du poivron, de l'oignon.
En petits dés comme ça.
Aussi un petit peu de tomate, cuit on se les uns après les autres.
Séparément.
Voilà.
On les fait suer un peu.
Pas forcément séparément, en fait. C'est pas comme une ratatouille, vraiment. Là, on peut y aller ensemble. Il faut que l'oignon et le poivron aient un petit peu le temps de dorer. En revanche, la courgette, ça peut être pas mal qu'elle garde un petit peu de mâche. La tomate est là pour parfumer, puis mouiller un petit peu. De l'ail, des herbes, et puis on récupère la chair des aubergines cuites qu'on mélange avec ça, on remet tout dans les coques d'aubergines, et puis ensuite on peut remettre au four pour laisser confire un petit peu.
C'est merveilleux.
Vous avez mis des petits croutons.
Le petit croustillant, c'est quoi?
Une chapelure un peu grossière.
C'est ça, une chapelure que là, j'ai fait griller à la poêle avec de l'huile d'olive pour la rajouter là, mélanger avec de la menthe et du persil.
Ça apporte beaucoup, cette chapelure, justement. Mmh.
Ouais. Et moi, je me suis méfiée, pardon, mais c'est en aucun cas on ne couvre de chapelure, ce que je déteste. Là, c'est mis par petits paquets, et de temps en temps, dans la bouchée, on a un truc qui croustille, et c'est génial.
Ouais.
C'est une très bonne idée.
C'est vraiment génial. Et Zana, vous, ça se passe dans une riste, votre cuisine de l'aubergine.
Oui, alors j'ai regardé, c'est riste, comme riste tourné, retourné,
oui, comme ratatouille,
hein. Voilà, exactement.
Mais alors riste, ce sera d'origine, une recette d'origine arlésienne.
Oui, exactement, arlésienne.
Alors, on parle d'une compote d'aubergine.
Alors on l'a un petit peu arrangé, enfin on fait ce qu'on veut en fait. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les ratatouilles quand il n'y a pas de courgettes. J'adore la courgette et pourquoi j'en ai fait un chapitre spécial, mais j'aime pas trop la courgette avec les autres légumes, tellement, parce que ça apporte de l'eau, etc. Donc là, c'est oignon, ail, poivron, bien revenu. L'aubergine qui dégorge pendant ce temps-là avec du gros sel, coupé en petits morceaux. Ensuite, on rajoute l'aubergine, où on la fait revenir à part, ce que j'ai fait, parce qu'on gagne du temps. Et puis, on rassemble tout ça. Et puis, on a un légume normal, entre guillemets normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas légume. Et puis, plus on laisse confire, et plus on a un autre plat. C'est-à-dire qu'au milieu, on a un plat comme ça. Et puis, un peu plus, on a de quoi faire un apéro.
Ce sable de mijotage, c'est juste parfait.
Voilà.
Je vous l'annonce.
C'est combien d'heures
tout de
mijotage
on vous la pique, la recette. Elle est dingue.
Ah oui, c'est bon. Et là, moi, j'ai rajouté du gingembre.
Combien d'heures?
Au moins une heure, quand même.
Oui, d'accord.
Ah oui. Il faut que ça soit confit. Et j'ai rajouté du gingembre frais et de la coriandre fraîche. Mais la coriandre fraîche, moitié avec les petites tiges, parce que c'est très très bon, moitié pendant la cuisson. Et puis ensuite, vous voyez, les verts vifs, crus,
encore
plus
frais,
de la servir.
Complètement dingue, c'est une vraie
très
compote
bon.
D'aubergine, remarquablement assaisonnée, particulièrement...
Match nul dans les matchs.
Et fondant en bouche, là c'est vraiment un match amical de très haut niveau. Qu'est-ce qu'on boit avec ça?
On va déguster.
Vous connaissez mon goût prononcé pour les rosés avec de la couleur, pour les rosés avec du vin dedans. Et donc, mon dégoût prononcé pour la bibine à glaçons qu'on nous sert sans arrêt.
Allez, c'est parti.
Et dont on est les innocentes victimes.
Sur France Inter.
Il aime le rosé Jérôme Gagnès, mais pas n'importe lesquels.
Exactement. Donc oui, effectivement, ras-le-bol de la bibine à glaçons. On commence à en voir un petit peu moins. C'est une excellente nouvelle. Peut-être que les vignerons qui faisaient cette bibine à glaçons nous feront des vrais rosés. Pourquoi pas rêver en ce matin presque estival. Donc, nous parlons ici d'une appellation qui s'appelle Irouléguy. Nous sommes en Basse-Navarre, entre Saint-Étienne-de-Baïgorry et Saint-Jean-Pied-de-Port, à 40 km de l'Atlantique. Ça, c'est pour le petit point géographie. Et nous sommes dans une appellation qui fait 270 hectares. C'est tout petit, ça fait des blancs, des rouges et des rosés. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Ça fait des très grands blancs, ça fait des bons rouges et ça fait des rosés délicieux. Surtout quand c'est la famille Arechea, la famille Rius-Perus, pardon, du domaine Arechea, qui s'occupe de nous faire ce merveilleux rosé, qui est un vrai rosé de macération. Très rapidement, on peut faire du rosé soit en pressant des raisins rouges et ça va très légèrement colorer le jus. J'appelle ça plutôt des blancs de noir, vin blanc issu de raisins noirs. Alors qu'un rosé, il a la couleur rosée. Et cette couleur rosée, on l'obtient par une courte macération dépôt dans le jus. Et donc on a, et cette courte macération, elle apporte pas seulement la couleur, évidemment, elle apporte de la structure, elle apporte des tout petits tanins qu'on sent à peine, elle apporte beaucoup d'arômes aussi.
C'est
ça qui est très important, et de la profondeur. Et ici, ça embaume le fruit rouge. On a une texture en bouche qui est vive, qui est rafraîchissante, et qui est très enlevée, qui est très dynamique. Les Rius-Perus sont formidables. Il s'agit de Thérèse, Michel et leurs enfants Iban et Théo, Ils sont basques jusqu'au bout des ongles, même si Thérèse est d'origine alsacienne, mais ils sont basques jusqu'au bout des ongles, ils ont la passion de leur terroir, et ils nous sortent ce rosé. Tous les ans, ce rosé, d'ailleurs, il porte vraiment l'empreinte et la marque du millésime. Et donc, 2024, c'est un millésime frais, donc on a cette belle acidité revigorante. En 2023, on avait un vin qui avait un petit peu plus de rondeur. Chaque année, j'aime ce vin. Ça fait longtemps que je le goûte, et je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui, parce que c'est pour moi un peu l'archétype du bon rosé. Imaginez-le sur ce que nous venons de manger, ça fonctionnait très bien. Imaginez-le avec un pancone tomaté et une fine tranche de jambon.
Pour la jouer couleur locale.
Pour la jouer couleur locale, c'est une pure merveille. Ça vaut 14 euros. C'est le prix de l'artisanat, c'est le prix du travail bien fait, c'est le prix de la passion pour un sol et un terroir. C'est donc pour moi extrêmement raisonnable parce que c'est un très joli vin. Il vieillira avec grâce pendant 2 ans. N'oubliez pas, ça s'appelle Irulegui Rosé 2024 du domaine Arechea, des formidables Thérèse, Michel, Iban et Théo.
Et vous avez un super événement bordelais à nous signaler, Jérôme Gagnès.
Une pure merveille que cet événement, ça s'appelle, c'est la Rock School qui fait ça, Wine and Food and Rock Session. C'est le fabuleux Manu Rancès qui organise ça tous les ans. Côté vin, il y a le Clos du Jaugueron, la Closerie des Moussis, le Domaine de la, Château Coutetta, Saint-Émilion, Château Pébonhomme, les Tours, que des crus d'artistes, que des super vins. Côté chef, parce qu'ils viennent faire la cuisine pour 5 euros un petit jeton, vous avez une petite assiette de chacun de ces chefs. Le Prince Noir, c'est Vivien Durand, Ressource, c'est Tanguy Lavial, et plein d'autres encore, formidables. Et avec un concert de Laura Marie Carter, qui est leader du groupe de rock Blood Red Shoes, et qui fait un concert merveilleux.
Ah, je vous vois bien,
c'est
ce
le
concert.
19, oui. À la Rock School Barbet, à Bordeaux, le 19 juin. À partir de 19h, c'est formidable.
Merci pour cette recommandation. Vous avez une minute, donc 30 secondes chacune, je suis vraiment désolé, pour annoncer votre recette qu'on va déguster ensemble. On parle évidemment d'un dessert. Là encore, le point commun, c'est les fruits d'été. Zana ?
Une compote de fruits d'été, avec ce qu'on a sous la main.
Mais encore ?
C'est quoi comme fruit ?
Là, c'est cerise, pêche,
abricot.
Il y a quoi, de la girofle, de la...
Alors j'ai mis une pincée de 4 épices. Voilà. J'aime pas trop, mais à peine. Voilà. J'ai mis des écorces de citron et d'orange.
On en profite pour prendre les légumes qui font un peu la tête dans la corbeille.
Les fruits, pardon. Les fruits. Ben voilà, c'est ça.
Et à la poêle.
Et alors moi, je mets le noyau.
Et oui, le goût du noyau. Très bien. Donc ça, c'est une vraie compote de fruits d'été. Et Keda ?
De mon côté, les fruits sont rôtis au four. C'est aussi des pêches, des abricots, des prunes. Mais c'est au four avec, cette fois, de la citronnelle. Ça pourrait être de la verveine, des écorces de citron. Et puis, à la fin, les fruits rouges, les petits fruits, les framboises qu'on rajoute après et qui cuisent en quelques heures dans le jus chaud. Et là, avec soi, c'est très bon avec une glace au fromage blanc.
Ouais.
Là, j'ai fait une sorte de Fontainebleau du fromage blanc de campagne avec de la crème fouettée.
La crème normande, j'imagine.
Oui. Ça, de la bonne crème normande. Ça fait un coulis qui est délicieux.
C'est délicieux. Alors, un partout. Ouais.
Et le point commun, c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans vos compotes de fruits. Ou légèrement.
Moi, j'en ajoute une cuillerée. Je trouve que ça, c'est ce qui fait sortir le jus des fruits. C'est pas tellement pour sucrer. Ils ont assez de sucre en eux-mêmes, mais ça fait sortir leur jus. Ça se caramélise un petit
merveilleux.
Peu.
Merveilleux. Bravo. Alors, l'été passe. Les recettes restent toujours d'André Zanamura. Ça, c'est chez Hachette.
Merci.
Le goût du jour de Keda Black, toujours chez Hachette. Vous avez compris que si vous avez besoin de faire le plein de recettes inspirées pour cet été, il y a ces deux livres qui sont vraiment... merveilleux. La semaine prochaine, ce sera la dernière de la saison, figurez-vous. Adresse, recette, livre, on vous sert tous nos bons plans pour un été gourmand avec nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Manon Fleury, Zazie Tavitian, il y aura un certain Jérôme Gagnès aussi, je crois, autour de la table. Alessandra Pierini et Laurent Delmas, on va se régaler. Merci Keda, merci Zana.
Merci à
bientôt
vous.
Elvia.
À bientôt.
Merci.
Bon dimanche à
prochain.
Tous.
Si vous avez encore faim,